Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Centre Pompidou sous l'égide de la Bibliothèque publique d'information. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Monsieur John Horn, qui est professeur d'histoire contemporaine au Trinity College de Dublin, pour une conférence consacrée au thème guerre et réconciliation en Europe au XXe siècle, dans le cadre d'une soirée co-organisée en partenariat avec les Rendez-vous de l'Histoire de Blois, dont c'était la 11e édition. Il s'agit d'une des manifestations proposées dans le cadre de la saison culturelle européenne sous l'égide de Culture France, qui s'étendait du 1er juillet au 31 décembre prochain, et dont une des manifestations consistait à inviter 27 éminents historiens issus des 27 pays de l'Union européenne à venir dans notre pays pour consacrer un certain nombre de conférences à l'actualité immédiate et au passé récent qui permet de l'éclairer. Cette soirée sera introduite et modérée par Monsieur Nicolas Offenstadt, qui est maître de conférence à l'Université de Paris 1, et que je remercie d'avoir accepté de modérer aussi cette soirée, puisque vous aurez la possibilité de poser quelques questions à l'issue de la conférence elle-même. Je remercie aussi Aurore Guidez, qui était organisatrice dans le cadre des rendez-vous de l'histoire de Blois de cette série de manifestations, et en précisant aussi que M. Offenstadt était membre du conseil scientifique qui a présidé au choix et à l'organisation de ces rencontres. Voilà, j'espère que vous passerez une intéressante soirée. Je laisse sans tarder la parole à M. Offenstadt en remerciant l'ensemble des équipes, Emmanuel Payen pour le service d'animation, la régie, la sécurité, qui ont permis que cette soirée se présente sous les meilleurs auspices.
Merci. J'ai la lourde tâche de vous présenter rapidement John Horn et son œuvre pour que vous puissiez peut-être situer son propos dans un temps plus long de sa propre histoire. Donc, comme vous l'avez rappelé, monsieur le directeur, John Horn est professeur titulaire depuis 2003 de la chaire d'histoire d'Europe contemporaine à Trinity College à Dublin. C'est un grand spécialiste de la France, mais c'est aussi véritablement, et je pense que sa place est toute trouvée ici, un véritable historien européen. Européen d'abord par sa maîtrise des langues, vous allez être étonné comme beaucoup par la qualité de son français qui est sans doute meilleur que celui de beaucoup de nos compatriotes. Vous verrez aussi par ses références sa capacité à embrasser une bibliographie très large, c'est un grand voyageur qui se déplace aisément et communique dans le monde entier. Tout ça est évidemment en fait un historien européen peut-être tout autant qu'un historien de la France, mais c'est aussi ses perspectives qui en font un historien européen sans doute avant tout. Des perspectives qui, depuis le début de ses travaux, sont véritablement des perspectives d'histoire comparée. C'est marqué dès sa thèse de doctorat, qui a été publiée à Oxford en 1991, et qui s'intitulait « Labour at War, France and Britain » en 14-18, c'est-à-dire en gros le mouvement ouvrier, même si la traduction est mauvaise, comme il le remarque lui-même dans l'introduction de cette thèse, hein, c'est-à-dire les syndicats et en partie les socialistes. Ce mouvement ouvrier, donc, pendant la guerre, était étudié dans une perspective comparée, la France et l'Angleterre, mais avec un questionnement commun qui était en fait comment l'engagement des syndicats, notamment dans la guerre, leur mobilisation dans le conflit, avait permis de faire émerger finalement de nouvelles réflexions, notamment des réflexions sur la réforme et sur le réformisme, et comment tout un ensemble de projets sont nés chez les syndicats de cette expérience de guerre. Donc, une perspective d'emblée comparée pour le premier travail important d'un historien, qui était celle de la thèse de doctorat. Ce souci de la perspective comparée, on va l'avoir tout au long de l'œuvre de John Horn, notamment lorsqu'il va travailler sur une notion qui est très importante pour les historiens de 14-18, dont il est un des plus éminemment spécialistes, c'est la notion de mobilisation. Alors, pas seulement celle de mobilisation militaire, qui est évidemment bien connue, mais aussi celle de mobilisation politique et culturelle. Et donc, John Horn va beaucoup l'interroger, cette notion de mobilisation, dans différents articles, dans différentes contributions, au-delà de ses aspects économiques, pour embrasser toutes ces dimensions. Et il insiste notamment, et montre en plusieurs de ses travaux, que la mobilisation ne vient pas seulement d'en haut. C'est-à-dire que 14-18, ce n'est pas une mobilisation par la propagande, mais c'est une mobilisation aussi qui vient d'en bas. Il emploie à plusieurs reprises le terme d'automobilisation collective, c'est-à-dire que les populations étaient elles-mêmes impliquées dans le conflit. Ce travail sur la mobilisation des sociétés en 14-18 se marque notamment par un volume collectif en 1997, State Society and Mobilization in Europe, pendant la Grande Guerre à nouveau, où on voit John Horne diriger tout un ensemble de collègues sur les différents pays étrangers. Vous avez dans ce volume des contributions sur la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche-Hongrie, etc. Donc vous voyez d'emblée hein, une réflexion qui dépasse les frontières nationales pour saisir une notion aussi importante que celle-là à travers différents États. Cette notion de mobilisation va progressivement déboucher sur une autre qui est très importante dans l'œuvre de John, qui est celle de démobilisation. Mais là aussi, pas seulement au sens militaire, parce que ça fait longtemps qu'on la connaît, mais au sens culturel. Après la guerre, évidemment, on va se désarmer, mais on va désarmer aussi les haines qui avaient pu structurer un certain nombre de comportements en 14-18. Et donc John Horne va mettre en avant, dans plusieurs travaux, notamment un volume collectif dirigé en 2002, et cette notion va faire florès, on la retrouve chez beaucoup d'historiens, notamment plus jeunes, hein. Comment est-ce que les sociétés vont passer de la guerre à la paix, comment est-ce qu'elles vont se démobiliser, non pas seulement par les armes, mais aussi dans leurs rapports culturels les unes vis-à-vis des autres, d'où cette notion si importante de démobilisation culturelle, dont on retrouvera peut-être les traces dans la conférence d'aujourd'hui. Enfin, la grande œuvre de John Horne, c'est celle sans doute qu'il a écrite avec Alan Kramer en 2001 et qui a été publiée en 2005 chez Talendier, 1914, Les atrocités allemandes. C'est une étude absolument exhaustive hein, de tout ce qu'on a appelé les atrocités allemandes en 1914, c'est-à-dire les exactions qui ont été accomplies par les troupes allemandes lorsqu'elles ont envahi la Belgique à partir du début août, puis ensuite en France. Alors, les exactions, John Horne les a étudiées non pas seulement pour essayer d'en faire le compte, ce qui fait d'ailleurs fort bien avec beaucoup de méthodes, mais aussi pour comprendre comment s'est joué ce véritable phénomène d'atrocité, hein, puisqu'il y a plusieurs milliers de civils qui sont morts. Donc John Horne a non seulement recensé toutes ces exactions, mais cherche à comprendre comment est-ce que ça a pu fonctionner des deux côtés. C'était véritablement, comme il le dit dans son introduction, une histoire transculturelle européenne. Comprendre pourquoi les Allemands ont pu accomplir un certain nombre de ces atrocités, comment les Alliés les ont vécues et perçues, comment ensuite, des deux côtés, on a instrumentalisé ces atrocités dans la mémoire de la guerre. C'est un livre qui est un des plus importants hein, qui soit paru sur 14-18 depuis une dizaine d'années, d'autant plus que John Horne ne s'est pas contenté d'établir les faits, de comprendre les représentations qui les avaient permises, mais il a aussi cherché à comprendre les traces, les occultations ou les mises en avant qui avaient pu être faites de ces atrocités allemandes commises donc sur les civils. Donc vous voyez une œuvre multiforme mais centrée sur un certain nombre de notions fortes, hein, mobilisation, démobilisation, hein, faits et représentations articulés dans une même tentative de comprendre des événements fondamentaux de 14-18. Évidemment, cette œuvre, elle est encore en plein développement. Elle se marque notamment par l'édition, cette année qui vient, 2009, d'une forme de manuel sur la Grande Guerre qui sera publiée chez Blackwell. Et puis, une œuvre sans doute, là, beaucoup plus profonde et personnelle, hein, une histoire de la France en 14-18 hein, que John Horne prépare et qui est fondée notamment sur des archives, là aussi, inédites, travaillées de première main, hein, comme ça avait été si frappant dans son livre sur les atrocités allemandes. Et puis, cette leçon d'histoire, enfin, s'inscrit dans un programme beaucoup plus large, un programme qui s'appelle Heuriste 20e, dont il fait partie et qui rassemble Heuriste 20, je ne sais pas si on dit 20, Heuriste 20, qui est donc un grand programme de recherche, là aussi, qui rassemble des institutions dans toute l'Europe et qui a pour but de réfléchir notamment en ce qui le concerne sur les sorties de guerre. Hein. On avait vu les notions de démobilisation, il y a aussi celle qui a été mise en avant par un certain nombre de collègues de John Horne et lui-même. Hein. Comment est-ce qu'on sort de la guerre, comment on passe de la guerre à la paix. Donc ce grand programme de recherche, il en est un des leaders, et c'est évidemment porteur de nouveaux résultats, non seulement pour l'histoire de la guerre de 14-18, mais aussi des autres conflits, et c'est ce qui va nous montrer, je crois, dans sa leçon, hein, comment on peut articuler l'histoire de différentes guerres à partir d'un certain nombre de perspectives et de réflexions communes. Voilà. Merci donc d'avoir accepté pour les rendez-vous de l'histoire de donner cette grande leçon d'histoire européenne. Et donc je vous laisse avec John Horne.
Merci Nicolas pour cette introduction aimable, amicale et pas trop élogieuse. Et je tiens à remercier aussi M. Thierry Grenier, directeur de la Bibliothèque publique d'information du Centre Beaubourg, et son équipe pour leur accueil ce soir, et surtout les rendez-vous de l'histoire, et notamment de l'organisatrice Aurore Guidez, qui organise ces 27 leçons d'histoire européenne dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Comme Nicolas vient de dire, ce soir, c'est une réflexion générale. Je suis, comme il a dit, plutôt spécialiste de la Grande Guerre, mais c'est pour moi une sorte de gageure. À la suite des réflexions, des conversations, des discussions que j'ai eues avec mes collègues en juriste 20, de réfléchir justement sur les sorties de guerre à travers le 20e siècle. Donc, gros sujet, j'essaierai de ne pas parler plus de 55 minutes, une heure grand maximum. Je vous le promets. L'Europe du XXe siècle est connue tant pour ses conflits idéologiques que pour ses guerres dévastatrices, ce qui a amené des historiens à parler du continent noir et de l'ère des extrêmes. Loin de moi de démentir cette façon de voir notre histoire commune. Mais quelles leçons en tirer pour éclaircir ce XXIe siècle toujours débutant et cette Europe encore en devenir? Pour répondre à cette question, je voudrais explorer ce soir un paradoxe. Malgré le rôle charnière, ce sont moins les guerres qui constituent les tournants de l'histoire contemporaine du continent que les périodes d'après-guerre. Ce sont ces périodes-là, et notamment celles qui suivent les trois conflits qui ont déchiré le continent, les deux guerres mondiales et la guerre froide, qui oblige les Européens à se confronter aux violences qui les avaient divisés, à guérir les blessures et à trouver un sens à la mort de masse et aux destructions matérielles. Ce sont les après-guerres surtout qui soulèvent l'impératif de réconciliation entre Européens aux années 20, après 1945 et depuis 1989. C'est là où le sort du continent est joué, moins dans la division que dans la façon de résoudre les divisions. L'hypothèse que je vous propose, donc, est qu'une autre Europe s'est tissée à travers ces trois périodes d'après-guerre. Une Europe qui a fini par s'imposer lentement à cause de ses forces de reconstruction et de ses capacités de réconciliation. À la lumière de cette hypothèse, on pourrait proposer une lecture un brin plus optimiste de ce XXe siècle européen que celle d'un continent voué au barbarisme, et ce, sans réhabiliter la prétention séculaire des Européens d'incarner une civilisation universelle. Je répète, vraiment, c'est une hypothèse dont l'exploration va sans doute apporter plus d'interrogations que de conclusions, mais cela aussi fait partie des leçons d'histoire. En quoi réside la nature de ces trois périodes d'après-guerre? Disons d'emblée qu'il faut appréhender ces périodes en deux dimensions. D'une part, celle de leur spécificité historique, qui est enracinée dans le type de conflit dont elles sont issues et qu'elles tentent de résorber. Mais, d'autre part, celle d'un enjeu générique, qui est celui du retour à la paix. Car sortir de la guerre veut dire rétablir un état de paix par un processus qui inverse l'entrée en guerre. Un verdict militaire qui permet une solution diplomatique est indispensable, sans quoi on reste dans un état de paix armée sans clôture réelle. Des mobilisations militaires et économiques sont non moins indispensables. Sans elles, le retour dans les foyers et la reprise de la vie normale s'avère impossible. Mais dès que l'on envisage la démobilisation comme un processus politique ou culturel, les choses sont moins certaines. Car démanteler les esprits, les psychologies et les engagements du temps de guerre afin de coexister avec l'ancien ennemi, voire de se réconcilier avec lui, n'est en rien inévitable. Sans les démobilisations militaires et économiques, il n'y a pas de transition à la paix. Mais de la démobilisation politique et culturelle, ou de leurs difficultés ou impossibilités, dépendent la nature et la qualité de la paix à plus long terme. C'est là où se jouent les réconciliations. Et dans cette perspective, les périodes d'après-guerre peuvent avoir des durées très variables. Ma démarche, par conséquent, serait de voir si l'on peut discerner certaines logiques internes de ces tentatives de réconciliation, tentatives qui furent, selon l'hypothèse, partie intégrante des périodes d'après-guerre. Mais d'abord faudrait-il préciser les spécificités historiques des trois périodes en question. Sinon, nous risquons fort de mal comprendre la portée et la signification des réconciliations. En effet, les trois après-guerres furent aussi distinctes que les conflits dont ils signèrent la fin. Toutefois, on retrouve dans chacun d'eux certains éléments qui rendent la comparaison possible. Dans chaque après-guerre, il y a une dimension militaire et diplomatique, qui est celle de la résolution des forces à la fin des hostilités, et donc du rééquilibrage du pouvoir au niveau du continent européen. Il y a en plus une dimension idéologique, qui est à la fois interne et externe aux puissances belligérantes, parce qu'elle passe entre les États hostiles, mais aussi au sein de la plupart d'eux, car ces guerres ont été une lutte en règle entre des utopies séculières qui ont touché de près ou de loin presque tous les Européens. Enfin, il y a une dimension géopolitique qui a consisté en un long règlement du rapport entre les peuples européens et les territoires du continent. Que veut dire cela plus concrètement? En ce qui concerne l'équilibre du pouvoir, les deux guerres mondiales ont écarté une hégémonie allemande sur l'Europe, mais aux dépens de la puissance relative de ces démocraties libérales que sont la France et la Grande-Bretagne, et au prix de la division du continent lors de la guerre froide entre deux nouvelles puissances hégémoniques, les États-Unis et la Russie soviétique. Quant au conflit idéologique né de la Grande Guerre, il donne bien sûr l'Europe tiraillée entre communisme, fascisme et démocratie, avant qu'une résolution ne se produise en deux temps, en 1945 par rapport au fascisme et en 1989 en ce qui concerne le communisme. Le règlement du rapport entre État et peuple, quant à lui, traverse les trois après-guerres comme un fil rouge, depuis la violence qui accompagne l'effondrement des empires multiethniques et la naissance de nouveaux États-nations dans le sillon de la Grande Guerre, jusqu'à l'éclatement sanglant de la Yougoslavie aux années 90. Il passe par la réorganisation de frontières et l'expulsion de minorités ethniques lors du Grand Règlement de Kant en 1945-1948. Mais les après-guerres s'inscrivent aussi dans une autre dimension, celle de la guerre elle-même. De l'initiation au combat industriel de 1914-1918, en passant par la guerre totale de 1939-1945, les Européens, et avec eux le monde entier, arrivent dans la deuxième moitié des années 40 à la potentialité de l'anéantisme nucléaire. Bien sûr, le simple spectre d'une telle fin de l'homme fait que la nouvelle guerre reste froide, du moins dans ses principales zones d'affrontement, comme l'Europe. Elle aura, cette guerre, ce caractère insolite du point de vue militaire, d'être virtuelle. Elle sera fondée sur une course au perfectionnement des armes nucléaires qui sont destinées, sauf cas d'accident, à ne jamais être déployées, mais à servir à des fins de dissuasion. La confrontation politique et idéologique va se substituer à celle militaire, ce qui donnera un troisième après-guerre qui, à l'opposé de ses deux prédécesseurs, n'aura ni mort ni ruine à pleurer. Néanmoins, cette escalade de la violence militaire, cette dynamique de destruction réelle ou virtuelle, s'imposera comme une préoccupation majeure entre 1914 et nos jours. Et ce d'autant plus qu'en cours de chemin, les Européens auraient aboli la distinction entre cible militaire et cible civile et auraient inventé le génocide moderne. Cette descente dans la barbarie représente le drame transversal du XXe siècle européen, avec lequel toute tentative de réconciliation doit compter. Il ne suffit pas de se remettre en bon voisinage avec ses anciens ennemis, il s'agit aussi de remettre de l'ordre moral dans un univers bouleversé par l'escalade de la violence guerrière. Les après-guerres consistent donc en de multiples processus. Ils doivent entériner le résultat militaire et politique des conflits dont ils sont issus, essayer de résorber les violences du conflit et reconvertir les éléments essentiels de l'état de guerre en autant d'éléments de l'état de paix. La réconciliation entre les anciens ennemis est par nature difficile, surtout dans un premier temps, quand le nouvel équilibre du pouvoir vient d'être imposé par les vainqueurs, souvent en forme d'occupation militaire, quand les antagonismes du temps de guerre sont toujours brûlants et quand les zones de violence continuent à échapper à la pacification. Rencontres sur de nouvelles bases et tentatives de réconciliation se manifesteront dans un deuxième temps, quand le nouveau statu quo aura l'adhésion au moins partielle de l'ancien ennemi, quand les esprits seront plutôt apaisés et quand une certaine distance aura rendu toute son horreur rétrospective à la violence et à la brutalité de la guerre. Ceci dit, la première période, celle qui suit la fin des hostilités, la vraie sortie de guerre, possède une importance fondamentale par rapport à la deuxième période, celle des réconciliations possibles, car elle sert de fondation pour ces dernières. Elle entérine le nouvel équilibre du pouvoir, tout en incarnant un jugement sur la guerre, jugement diplomatique, politique et moral. Ainsi, la période entre 1919 et 1923, qui atteint son point culminant dans l'occupation franco-belge de la Ruhr, voit l'application des différents traités, et notamment celui de Versailles avec l'Allemagne, qui confirme une hégémonie précaire de la part de la France sur l'Europe. Le jugement explicite exprimé par le traité de Versailles sur la culpabilité unilatérale de l'Allemagne impériale pour la guerre était loin de faire l'unanimité, même dans les pays alliés. Néanmoins, ce fut à partir de ce jugement que se négocia la phase de la réconciliation franco-allemande lors des traités de Locarno de 1925, qui confirme l'acceptation de l'Allemagne de ses nouvelles frontières à l'ouest, suivie de l'entrée allemande dans la Société des Nations en 1926. À la longue, la phase de réconciliation dans la deuxième moitié des années 20 ne surmonte pas le rejet du traité de Versailles par le nationalisme allemand, c'est-à-dire le refus de ce dernier de partager le jugement allié sur le sens réel de la guerre. Ceci ne veut pas dire qu'un certain nombre de concessions et de compromis ne soient pas négociés, mais ils sont viciés par la montée des idéologies sous la houlette de la crise économique et par l'incapacité de la France et de la Grande-Bretagne de maintenir l'équilibre du pouvoir de 1919 face à la résurgence de l'Allemagne nazie. Malgré une courte période d'apaisement et d'espoir, les bases de la paix établies en 1919 sont trop fragiles pour permettre des aménagements et des réconciliations durables. À première vue, la paix de 1945 est tout le contraire. En réaction contre la paix boiteuse de 1919, qui avait laissé l'Allemagne vaincue mais largement intacte, la Grande Alliance de la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Russie soviétique, et à la fin la France, impose une reddition inconditionnelle sur l'Allemagne nazie, suivie d'une occupation totale, celle après 1918, ayant été partielle et temporaire. La défaite idéologique du fascisme est tout aussi centrale à cette deuxième fin de guerre. Dans un premier temps, les épurations politiques et les procès juridiques des dirigeants nazis et des militaires allemands responsables de 6 ans de destruction sans précédent, ainsi que de ceux accusés d'avoir collaboré avec eux dans les pays occupés, se répercutent avec des intensités variables à travers l'Europe. En même temps, les 3 puissances alliées signent à Yalta une réorganisation de l'Europe de l'Est qui change de manière radicale les frontières de plusieurs des États-nations issus de la Première Guerre mondiale. Dans l'atmosphère d'hostilité et de violence qui suit la fin des hostilités de la guerre, des populations sont expulsées de manière brutale afin de faire conformer États, peuples et nations, en ce que j'ai appelé tout à l'heure ce grand règlement de compte. Il s'agit notamment des Allemands chassés de la Tchécoslovaquie et de la Pologne et des Polonais renvoyés de l'Est du pays qui est incorporé dans l'Union soviétique. De cette première phase de l'après-guerre, somme toute très dure et par certains côtés violente, nous ne savons pas quelles auraient été les réconciliations ultérieures, à la fois parmi les anciens États ennemis et entre les anciens fascistes et leurs opposants idéologiques, si la paix générale avait duré en Europe. Mais tel ne fut pas le cas. La guerre froide s'installe à partir de 1946-1948 en retournant chaque élément de la sortie de guerre de 1945 pour l'investir dans le nouveau conflit. L'équilibre du pouvoir envisagé à Yalta et même à Potsdam est suspendu et converti en la division de l'Europe, en commençant par l'Allemagne. La victoire sur le fascisme se décline en deux versions, communiste et démocratique ou capitaliste, ce qui alimente une nouvelle confrontation idéologique. La reconfiguration des États-nations de l'Europe de l'Est, péniblement atteinte, se trouve rapidement subordonnée à l'hégémonie russe sur le modèle stalinien. Ainsi, les démobilisations culturelles et politiques de la Deuxième Guerre mondiale s'effectuent dans le cadre d'une nouvelle mobilisation pour la guerre froide, et on s'en profondément marqué. Car cette guerre virtuelle impose de formidables divisions entre ce que vont devenir en 1949 avec la création de l'OTAN et en 1955 avec le pacte de Varsovie, deux camps opposés, tant militaires qu'idéologiques. L'ennemi d'hier sera relativisé par l'ennemi d'aujourd'hui. Berlin passera en 3 ans de capitale du Reich en symbole de liberté pour l'Ouest lors du pont aérien de 1948-1949. Le travail de jugement et de réparation en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale sera modifié en fonction de cette nouvelle donne. Les réconciliations d'après 1945, telles qu'elles se pratiquent jusqu'en 1989, se feront essentiellement à l'intérieur des clivages de la guerre froide. La fin, pour le moins inattendue, de ce dernier conflit, en 1989-1991, pourrait sembler à première vue comme l'initiation d'une après-guerre sans commune mesure avec ses deux prédécesseurs, ne serait-ce que par l'absence de morts et de ruines que j'ai déjà notées. Cependant, la transition s'établit une fois de plus sur un nouvel équilibre militaire et diplomatique. Il est vrai que celui-ci prend la forme d'une résolution tardive de la sortie de guerre de 1945, qui avait été gelée par la guerre froide. Les 4 puissances qui avaient occupé l'Allemagne consacrent la réunification de ce pays et mettent fin au statut spécial de Berlin. Mais cette solution définitive de la question allemande, se fait aux dépens de l'URSS, dont l'hégémonie sur l'Europe de l'Est avait écroulé. La nature paradoxale de la guerre froide fait que celle-ci ne se termine pas avec une conférence de paix classique ou même un sommet, comme à Yalta ou à Potsdam en 1945. Mais la Russie soviétique est vaincue comme l'Allemagne de 1918, privée de beaucoup de territoires, repoussée à ses frontières presque du XVIIe siècle, est obligée de changer de système politique. Et c'est l'hégémonie américaine qui sous-tend le nouvel équilibre du pouvoir continental. En même temps, les révolutions de velours dans les anciens satellites soviétiques signent la fin du conflit idéologique. Le règlement du rapport peuple-nation, hérité de l'après-guerre précédente de 1945, sera plutôt un élément de continuité et de stabilité dans la sortie de guerre de ces mêmes pays en Europe de l'Est. Seulement dans l'ex-Yougoslavie sera-t-il violemment remis en cause. C'est donc sur ces bases d'une réelle défaite militaire et idéologique que l'on essaiera de composer avec le passé communiste et de se réconcilier à nouveau entre Européens. Si j'ai tant insisté sur la spécificité de chaque après-guerre et notamment sur celle de la période transitionnelle qui en constitue la première phase, c'est que les réconciliations ne se font pas à la légère, ni de manière abstraite. Elles sont conditionnées par le nouveau régime sécuritaire issu du conflit. Ce fut l'instabilité de celui-ci, par exemple, qui a miné le rapprochement franco-allemand aux années 1920. Elles dépendent également de la défaite de l'opposant idéologique, fascisme en 1945, communisme en 1989. Sinon, une certaine coexistence hostile est le maximum à laquelle on peut espérer. Et malheureusement, la rationalisation brutale des rapports entre peuples et territoires et nations, avec la réorganisation des frontières et la réduction ou l'élimination de minorités ethniques, est une dimension clé de ces trois après-guerres. Autrement dit, les réconciliations portent les traces profondes des violences qui les rendent nécessaires. Passons maintenant aux logiques de réconciliation dans les trois après-guerres, tout en rappelant que réconciliation veut dire effectivement, en quelque sorte, la démobilisation des mentalités du temps de guerre, le démantèlement de la figure de l'ennemi et la recherche de terrains d'entente, sans oublier la prise en compte du bouleversement moral occasionné par les violences guerrières. J'en vois trois de ces logiques, trois motivations profondes qui, à terme, portent sur la réconciliation. Il y en a sûrement d'autres, mais la soif de la justice, le besoin de régler le passé et le désir de construire un nouvel avenir me semblent fondamentaux. J'explorerai chacune d'elles à son tour. D'abord, la soif de la justice. La volonté de sceller au moyen de procès juridiques les jugements rétrospectifs portés sur les conflits est sans doute implicite dans le droit international sur la guerre, tel que celui-ci s'élabore avant 1914. Dès que l'on propose le traitement humanitaire des soldats et des civils ennemis, ou que l'on considère la guerre non comme un état naturel, mais comme un acte défensif et de dernier ressort, ce qui est exactement le cas pour le droit international prôné par les conventions de Genève et de la Haye, d'avant 1914, il est inévitable que l'escalade de la violence guerrière que nous avons notée et qui est vertigineuse entre 1914 et 1945 soit soumise après coup à des normes judiciaires redéfinies. Il est non moins inévitable que les transgresseurs, ou ceux considérés comme tels, soient soumis à des procès juridiques. Autrement dit, le langage d'atrocité qui dénote les nouveaux seuils d'horreur et d'inhumanité franchis pendant les deux guerres mondiales est traduit en termes de droit, et cela à plusieurs égards. D'abord, on forge de nouveaux concepts juridiques. Crime de guerre date de 1906 et recouvre les façons illégales de faire la guerre. Crime contre l'humanité est forgé en mai 1915, afin de stigmatiser la tentative de destruction des Arméniens par la Turquie ottomane. C'est un terme inventé par les puissances alliées. Crime contre la paix est une idée utilisée contre Guillaume II, jugé coupable d'avoir déclenché la guerre en 1914. En 1945-46, le tribunal militaire international établi par les Alliés utilisera ces trois chefs d'accusation pour inculper les Allemands poursuivis dans le procès principal de Nuremberg. Génocide, en revanche, le terme forgé par Raphaël Lemkin pour désigner les desseins nazis contre les Juifs de l'Europe, ne trouve son statut juridique que dans la Convention de l'ONU de 1948. Ensuite, il y a l'application de ce nouveau dispositif judiciaire précisément sous forme d'instance internationale. Voici une expérience originale naît successivement des trois après-guerres européens. Certes, les résultats restent controversés. Faute de pouvoir ou de vouloir imposer aux Allemands les procès internationaux pour crimes de guerre qui figuraient dans le traité de Versailles en 1919, les Alliés acceptent par compromis que les Allemands eux-mêmes fassent le procès de leurs inculpés. Ceci donne une sorte de justice des vaincus quand en 1921-1922, la Cour suprême à Leipzig innocente la presque totalité des accusés. Le gouvernement turc, quant à lui, réussit à se dérober aux tentatives britanniques d'établir un tribunal international sur le génocide, le massacre, l'extermination, pour emprunter le terme de l'époque, sur l'extermination des Arméniens, crime qui continue à peser sur les avenirs possibles de l'Europe. L'échec de ces premières tentatives rend compréhensible la détermination des Alliés d'organiser un procès international sur territoire ennemi afin de sceller la défaite totale de 1945 par l'attribution de responsabilités individuelles pour ce qui était jugé comme une criminalité sans précédent, même si on était encore loin de prendre la vraie mesure du génocide des Juifs européens. L'État en s'en connut. Justice rétrospective et, cette fois-ci, justice des vainqueurs. Aucune possibilité pour les Allemands de désigner les bombardements aériens alliés comme crimes de guerre. En fait, il est difficile, impossible même, d'imaginer dans les circonstances de l'époque une justice véritablement impartiale. Comme nous l'avons dit, les périodes de transition doivent imposer le nouvel ordre politique et moral sur celui vaincu. Et ceci en faisant face à des brutalités sans précédent. Les historiens divergent dans leur évaluation de l'impact de Nuremberg sur l'opinion allemande, dont il devait contribuer à la rééducation politique. Mais Nuremberg avait une vocation internationale aussi, en stigmatisant pour l'avenir l'agression militaire et la brutalité envers les populations civiles déclenchées par les dirigeants nazis. Avec le droit international dans la matière qui suit, il devient un point de référence, Nuremberg, un point de référence européen, sans quoi il me semble difficile d'imaginer des réconciliations ultérieures. Certes, le nouveau droit international reste longtemps impuissant à cause de la guerre froide, mais face à l'explosion de violences ethniques dans l'ex-Yougoslavie, le précédent de Nuremberg et le droit international sur génocide et sur crimes contre l'humanité jouent un rôle capital dans la désignation rapide de crimes de guerre, surtout de la part, mais pas seulement, mais surtout de la part de Serbes de Bosnie, par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, établi par l'ONU en 1993. Ainsi, les trois après-guerres européens sont au cœur d'une jurisprudence internationale concernant les violences de guerre, surtout à l'égard des populations civiles. Cette jurisprudence est devenue à son tour un élément constitutif du régime de droit libéral qui est partagé de nos jours par la plupart des Européens. En plus de la dimension internationale, la période de transition après 1945 voit cette vague de procès au niveau national à laquelle j'ai déjà fait référence à travers l'Europe. Vague de procès qui vise l'ancien ennemi ou ses collaborateurs indigènes. Là aussi, une justice impartiale et neutre fut impossible, que l'on pense aux 124 000 cas entendus par les cours de justice et des chambres civiques en France, ou les 32 000 collaborateurs qui passent devant les cours populaires tchécoslovaques, avec environ 700 exécutions dans chaque cas. Mais dans les travaux récents, les historiens les considèrent moins comme une purge arbitraire que les instruments d'une, et je cite, d'une tentative de poursuivre ceux responsables pour de multiples formes de souffrance, de sorte que les principes de la justice et de la liberté puissent être réaffirmés. Fin de citation, et pour citer Martin Conway, sur le cas belge. À quoi j'ajouterai que la réduction ou la commutation des peines, les amnisties, pratique courant à la fin des années 40, début des années 50, du moins en Europe occidentale, représente en soi un début de réhabilitation, sinon de réconciliation, malgré les critiques de l'époque, procès trop sévère ou trop laxiste. Dans une bien moindre mesure, la guerre froide ayant été infiniment moins meurtrière, du moins en Europe, et de façon beaucoup moins improvisée, il y a eu un processus analogue dans les pays de l'Europe de l'Est depuis la chute du communisme. Ainsi, il me semble que la justice est une logique incontournable, malgré les aléas de son invention et de son application, pour adresser les contentieux les plus graves légués par les guerres et pour permettre, au moins, des essais de réconciliation. La question de responsabilité individuelle était au cœur des processus juridiques que je viens d'évoquer. Ce fut à la fois leur avantage de penser les violences de guerre en termes d'actes et de sanctions personnelles, et en même temps leur désavantage, car le poids du passé est tout autant collectif et historique. Régler ce passé collectif afin de surmonter les animosités héritées des conflits implique une mesure d'accord entre les anciens antagonistes sur le sens de la guerre. Et il constitue la deuxième logique de réconciliation que je voudrais discuter. Son champ d'application cette fois-ci est l'histoire, pas forcément celle des historiens, mais cette lecture morale, politique ou idéologique du passé que doit pratiquer tout groupe, toute société, afin de pouvoir fonctionner dans le présent. Nous avons vu que le sens de la Première Guerre mondiale reste contesté par les anciens ennemis aux années 1920. Pour les gouvernements et les élites de l'Allemagne de Weimar, il s'agit ou bien d'une guerre de défense légitime ou d'un conflit pour lequel toutes les puissances partagent les responsabilités. Les gouvernements français et britanniques, en revanche, maintiennent la thèse d'une guerre d'agression allemande menée avec brutalité, tandis que pour la Russie soviétique, le conflit reste une guerre impérialiste. Toutefois, le terrain d'entente que construisent les partenaires de Locarno dans la période de réconciliation entre 1925 et 1932 consiste en une relativisation de cette question de responsabilité pour la guerre en faveur d'une valorisation de la paix et surtout d'un rejet des horreurs de cette guerre qui avait fait 10 millions de morts, la plupart européens. Ne jamais plus cela n'est pas le seul cri des mouvements antimilitaristes, mais exprime un esprit bien plus répandu en Europe. En accueillant l'Allemagne dans la Société des Nations, le ministre des Affaires étrangères français, Aristide Briand, adresse ses paroles à son homologue allemand, Stresemann. Il évoque le sang encore fraîche sur les champs de bataille, et puis il poursuit « Ces mêmes peuples, qui se sont heurtés si rudement, se rencontrent dans cette assemblée pacifique et s'affirment mutuellement leur volonté commune de collaborer à l'œuvre de la paix universelle. » La guerre devient le nouvel ennemi contre lequel collaborent les anciens opposants, les anciens antagonistes. Et d'un geste symbolique, après l'entrée dans la Société des Nations par l'Allemagne, les deux hommes, Briand et Stresemann, et iront dîner ensemble dans un petit estaminet suisse. Mais la montée du nazisme, qui puise dans la mythologie du franc pendant la Grande Guerre, pour proposer un État militarisé voué au renversement de Versailles, annulera cette réconciliation autour de la guerre vue comme catastrophe. Par une ironie de l'histoire, la défaite totale de 1945, avec ses conséquences nettement plus graves pour l'Allemagne, occupation complète, perte de territoire, reflux de 12 millions de réfugiés des pays de l'Est, sera entérinée par les Allemands bien plus complètement que celle de 1918 et facilitera une vision du passé nettement plus réconciliée avec les anciens ennemis. Mais ce tournant se fera en deux modes selon le clivage de la guerre froide. Non seulement l'extirpation du nazisme idéologique et politique sera la base des régimes d'occupation, symbolisée justement par Nuremberg, mais la division du pays et la remobilisation politique et culturelle pour la guerre froide à partir de 1948 confirmeront la condamnation du passé nazi dans deux variants qui poussent à la réconciliation de chacune des deux Allemagnes avec son camp respectif dans la guerre froide. Au début, il est loin de certain que la masse des Allemands partage cette façon de voir leur passé. La nouvelle orthodoxie, le rejet du fascisme, du nazisme, est le résultat du rapport entre les puissances occupantes et des dirigeants allemands issus des courants anti-nazis, social-démocrates et démocrates chrétiens dans l'Ouest, Schumacher et Adenauer, communistes dans l'Est, Ulbricht et ses successeurs. Mais avec l'impossibilité de tout retour sur le passé et la dynamique mobilisatrice contre l'ennemi idéologique de la guerre froide, le rejet du passé nazi est lentement absorbé au nom d'une démocratie libérale dans l'Allemagne de l'Ouest, au nom de la révolution marxiste qui est le mythe fondateur de l'Allemagne de l'Est. Dans les deux cas, bien sûr, il y a accommodement de parcours individuels sous l'Ancien Régime. Il fallait bien vivre avec ce nouveau passé. Toutefois, il y a une différence fondamentale par rapport au génocide des Juifs de l'Europe. Pour l'Allemagne de l'Est, il s'agit du dérivé d'une forme de capitalisme révolu, le fascisme, qui n'implique en rien le nouvel État prolétaire. L'Allemagne est donc aucun besoin d'acceptation de culpabilité. L'Allemagne de l'Ouest, en revanche, endosse la responsabilité de reconnaissance et de réparation, Wiedergutmachung, la réparation par rapport à la Shoah. La création d'une culture politique libérale, tablée sur le rejet du nazisme, est pleinement entérinée par la nouvelle génération. Les procès aux années 1960 et 1970 de responsables d'Auschwitz et de Majdanek ont joué un rôle didactique important à cet égard, vraiment une éducation pour la jeune génération de l'Allemagne de l'Ouest. Elle trouve sa logique externe dans l'acceptation de la nouvelle frontière avec la Pologne et la perte définitive de territoire allemand, scellée par la demande de pardon faite par Willy Brandt en 1970 devant le monument du ghetto de Varsovie. Ce fut, à mon avis, le geste de réconciliation le plus important du deuxième après-guerre. Pour des raisons évidentes, le cas allemand est primordial pour toute l'Europe. Et cela va pour la troisième guerre après-guerre aussi. Nous l'avons déjà dit, l'acceptation de la réorganisation peuple-État, somme toute assez brutale effectuée après 1945, fut une des clés de la transformation paisible de l'Europe de l'Est suite à la fin du communisme, et une condition de la réunification allemande. Donc ça dépendait de l'acceptation préalable par l'Allemagne fédérale des nouvelles frontières avec l'Europe de l'Est. Mais la dimension idéologique de la Deuxième Guerre mondiale fait que le conflit passe à l'intérieur des pays occupés par l'Allemagne nazie et soulève pour chacun d'eux, après 1945, la question de son passé. Dans un premier temps, comme l'ont montré les travaux fondateurs d'Henri Rousseau et de Peter Le Grou, pour la France et pour la Belgique et la Hollande, les pays libérés qui peuvent se considérer vainqueurs construisent des narrations épiques basées sur la résistance, communiste ou gaulliste dans le cas français, qui ont pour fonction à la fois de sanctionner et de minimiser l'envergure de la collaboration et du fascisme indigène au nom du peuple résistant. Ce n'est en rien minimiser l'importance réelle de la résistance, ni sous-estimer son rôle d'inspiration pour la reconstruction nationale, de noter que ces mythes-histoires se révèlent à la longue bien inadéquates pour rendre compte du degré de complexité des rapports des pays occupés avec l'Allemagne nazie. Là aussi, c'est surtout la génération née ou grandie dans l'après-guerre qui, à partir des années 1960, se charge de cette confrontation avec l'histoire nationale, ce qui donne, dans le cas de la France de Vichy, ce passé qui ne passe pas. Comme pour l'Allemagne de l'Ouest, la Shoah en devient la question centrale. Cet épisode, sans possibilité rédemptrice, est aux antipodes des mythes-histoires. Et comme dans le cas ouest-allemand, des procès de Touvier, de Papon, ont une valeur didactique dans l'évolution de l'opinion qui finit par reconnaître le rôle de l'État français dans le génocide. Les raisons qui expliquent la lente reconnaissance de la centralité de la Shoah au Second Conflit mondial sont très complexes, mais entre autres, il a fallu entreprendre cette critique des mythes-histoires pour atteindre une réconciliation des nations avec leur propre passé. Ce travail fut entravé dans les pays communistes, à l'instar de l'Allemagne de l'Est, par l'orthodoxie officielle. Et même dans l'Europe de l'Ouest, il n'est peut-être pas un hasard si la désignation de la Shoah comme le mal suprême de la Deuxième Guerre mondiale se réalise seulement dans les années 1990, avec la fin de la guerre froide, qui avait amené chaque camp à relativiser le passé fasciste par rapport à son opposé contemporain. La pleine reconnaissance de la Shoah, telle que nous la voyons aujourd'hui, serait à cet égard le fruit du troisième après-guerre. Par rapport à la Shoah, exemple suprême des civils victimes, le pacifisme tel qu'il fut affiché par l'entente franco-allemande des années 1920 à l'égard de la violence proprement guerrière joue un rôle important mais secondaire. Chaque camp le proclame à sa manière dans la guerre froide. Il joue un rôle incontestable, ce rejet de la guerre, dans la nouvelle réconciliation franco-allemande symbolisée par Verdun et dans les valeurs internes du mouvement européen, tout ça bien sûr à l'intérieur donc, du camp occidental. Il devient, mais la révolte contre le souvenir d'Hiroshima et cette capacité d'annihilation militaire est subordonnée à l'inscription de chaque camp de la guerre froide dans une logique de dissuasion nucléaire. Il devient ainsi essentiellement un mouvement d'opposition, orchestré contre l'Ouest, dans le cas du communisme, dirigé de manière inégale contre l'Ouest et l'Est, mais surtout contre l'Ouest, par les mouvements antinucléaires des pays de l'Europe occidentale, notamment lors du placement des missiles, la crise du début des années 1980. La liquidation paisible de la guerre froide a eu pour effet curieux de marginaliser cette hantise des violences militaires nées de la Grande Guerre dans les deux parties du continent, réunies sous l'égide de l'OTAN et de la puissance américaine, sans toutefois l'abolir, comme démontrent les hésitations à doter l'Union européenne d'une réelle force militaire. Reste à savoir, dans ce troisième après-guerre, si l'on verra, un rejet aussi né du communisme, ce troisième volet du conflit idéologique, que l'on voit pour le cas du fascisme après 1945. Là, j'avoue, j'ai surtout des questions, car il me semble que nous sommes en plein dans un processus d'après-guerre. D'une part, les pays de l'Europe de l'Est se sont retrouvés à travers les révolutions de velours dans la situation des nations qui sortaient de l'occupation nazie en 1945. Les épisodes stigmatisés de crimes contre-révolutionnaires pendant la guerre froide, 1956 en Hongrie, 1968 en Tchécoslovaquie, Solidarność en Pologne, sont retournés pour jeter les bases d'une histoire de résistance nationale. Ce qui plus est, aborder le passé dans ce troisième après-guerre veut dire retrouver tout de suite l'après-guerre précédent, dont les processus avaient été abrogés par l'imposition du communisme. C'est ainsi que seulement en 2004 soit créé à Varsovie un musée du soulèvement de la résistance non communiste contre les nazis en 1944 et la destruction de Varsovie qui en résulte. Épisode occulté sous le communisme en raison du refus du soutien de l'armée rouge, pourtant campé sur l'autre rive de la Vistula. En même temps, des accusations de collaboration se sont manifestées, surtout à travers les archives de la police secrète. Et les ambiguïtés compréhensibles de la vie sous des régimes qui ont duré non pas 5 ans, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais la moitié d'une vie, rendent bien délicats des jugements en la matière. Autrement dit, le travail de réexamination du passé national dans l'Europe de l'Est est loin d'être terminé. Pour ce qui est de la Russie, en revanche, la comparaison avec l'Allemagne des années 20 est tout à fait appropriée, me semble-t-il, car une culture de défaite a produit une forte réaction contre le libéralisme de la période de Yeltsin, ce libéralisme qui considérait toute la période communiste, de 1917 en 1990, comme une exception dans l'histoire russe. Le sacrifice des 27 millions soviétiques tués à la Grande Guerre patriotique de 1941-1945 fut incontournable, tout comme il était impossible de faire abstraction du sacrifice allemand pendant la Grande Guerre aux années 20 et aux années 30. Avec en plus la nostalgie de beaucoup pour les certitudes de l'ère soviétique, il est évident que ce n'est pas de la Russie que viendra le procès du communisme. Bien sûr, le troisième après-guerre touche aussi l'Europe occidentale, ne serait-ce que par l'effondrement du clivage interne autour du communisme. Malgré certaines querelles sur l'équivalence morale ou non entre crimes fascistes et crimes communistes, avec la fin définitive du conflit idéologique, l'appétit pour un jugement rétrospectif des engagements communistes semblerait être bien moins aigu qu'envers le fascisme 50 ans plus tôt, peut-être en partie en raison de la continuité du souvenir de l'importance du communisme dans la lutte antifasciste de la Deuxième Guerre mondiale, et peut-être le silence des communistes aidant. Pour emprunter le titre du bel ouvrage de Vittorio Foa. J'ai parlé longuement du règlement des passés. Je vais parler en dernier et beaucoup plus rapidement de la construction de l'avenir comme logique de réconciliation. Non pas parce que je la considère moins importante, loin de là, mais parce que mon propos est plus simple et parce que je ne veux pas vous retenir plus longtemps que n'est raisonnable. En fait, dès la réconciliation éphémère des années 20, on voit surgir, par une impulsion presque opposée à celle du règlement du passé, le désir de lui tourner le dos en trouvant des projets de construction d'avenir. Démocrates chrétiens, social-démocrates, intellectuels, les familles qui essaient de se réconcilier et de résorber par un processus de démobilisation culturelle la haine née de la guerre, sont nombreuses. La Société des Nations, qui en fait est une instance dominée par les Européens, est le terrain privilégié de cette entreprise. Parmi ces multiples projets de pacification se trouve celui de Briand, soutenu par Gustav Stresemann, pour une Union européenne. Cette dernière idée tourne court, bien entendu, en raison de la crise des années 1930. Mais dans le deuxième après-guerre, sur le terrain partiellement réconcilié des pays de l'Europe occidentale, on voit réédité en deux versions ce projet d'un avenir supranational. La première version, calquée directement sur celle de Briand, est celle d'une fédération politique. Elle a peu de chances de s'imposer auprès des États qui viennent de retrouver leur souveraineté nationale après la guerre. Mais elle donne le Conseil de l'Europe, fondé en 1949, garant d'un régime de droits de l'homme et signe de l'Europe comme Rechtsstaat, c'est-à-dire une communauté de droit au niveau continental. Mais la voie indirecte de la reconstruction économique, qui est la préoccupation dominante à l'échelle nationale après la guerre, offre un terrain propice à des projets concrets et mutuellement avantageux au niveau international, sans trop freiner, pour l'instant du moins, l'indépendance nationale retrouvée. Je n'ai pas besoin de redire ici le rôle fondateur de la communauté européenne du charbon et de l'acier, initié par Jean Monnet, annoncé par Robert Schuman, est née en 1951. Elle résout la menace d'une industrie d'armement allemande renaissante par l'internationalisation de ses bases. Et elle jette les fondements du marché commun et de ses instances de direction européenne telles que celles-ci seront réalisées 6 ans plus tard avec le traité de Rome. Comme projet de réconciliation, ce dernier, le marché commun, est idéal, car dans le climat des Trente Glorieuses, tout le monde est gagnant et la coopération devient quotidienne. À la longue, le marché est politique, bien entendu, et le projet de l'intégration européenne comporte toutes les questions de modèle étatique, fédéral, Europe des nations, et d'orientation économique, libéralisme du marché, protection de l'Europe sociale, avec lesquels nous ne sommes que trop familiers. Mon propos ici se limite à souligner le rôle de réconciliation, de solidarité et de réintégration qu'a pu jouer ce projet par rapport aux guerres précédentes, et non pas une fois, mais deux, car il compte parmi les facteurs les plus importants dans la résolution pacifique du troisième après-guerre et la réorientation et réorganisation des anciens pays de l'Europe de l'Est. J'avoue qu'en terminant cette lecture d'histoire européenne, j'ai plus d'interrogations, plus de qualifications de mes propres propos que de conclusions fermes. Initialement, en y réfléchissant, j'imaginais que j'aurais plus à dire des idées sur l'Europe en tant que telle. Certes, j'ignore pas les références à différents aspects de la civilisation européenne que l'on retrouve aux années 20 autour de la fondation du projet européen aux années 1950, sans parler du débat sur la constitution de l'Union européenne en 2002-2003, passé chrétien, laïcité, lumière, etc. Mais maintenant, j'aurais plutôt tendance à voir cette recherche d'identité européenne par le passé comme une conséquence et non pas une cause des logiques de réconciliation que je viens de décrire. Car je suis frappé en conclusion, d'abord par l'importance du passé national et de la confrontation interne avec celui-ci par les pays européens sur les chemins de l'entente. Ensuite, par le rôle du droit, celui des droits de l'homme qui sous-tend la construction communautaire, mais celui surtout qui stigmatise les pires des cauchemars venus des dernières guerres européennes. Enfin, par le poids de l'avenir par rapport à celui du passé. Car c'est surtout, me semble-t-il, les projets d'avenir concrets qui ont pourvu les Européens de terrains de réconciliation pratiques, là où les circonstances le permettaient. Pour comprendre dans quelle mesure nous aurions, en tant qu'Européens, le droit d'être un peu plus optimistes sur notre siècle passé, j'espère que cette comparaison des trois après-guerre et des liens entre eux a été au moins utile. Je vous remercie de votre attention.
Bien, je crois qu'on peut ouvrir une séance de discussion sur cet exposé qui ne manque pas d'en susciter, comme l'a dit notre orateur lui-même en conclusion. On peut peut-être prendre un petit quart d'heure pour interroger John Hans aussi bien sur les propositions générales que sur des points de détail que vous voudriez voir éclaircir. Est-ce qu'il y a donc des questions? C'est la première qui est difficile ensuite.
Voilà.
Alors, moi je vais me lancer parce que j'ai été très intéressé par cette tripartition des logiques de réconciliation. Et je me suis demandé si on ne pouvait pas peut-être penser les choses de manière encore plus emboîtée pour le règlement du passé. Est-ce que finalement les règlements du passé ne sont pas, sont terminées lorsqu'une guerre est terminée. Est-ce qu'il n'y a pas plus d'enchevêtrement encore qu'on ne peut l'imaginer? Est-ce que notamment le passé de la Seconde Guerre mondiale finalement ne va pas être relu après cette nouvelle guerre froide qui se termine? Autrement dit, est-ce que le règlement des passés, ce n'est pas finalement un grand récit continu plus qu'à chaque fois une affaire de guerre? Je prends juste un exemple pour être plus clair. On voit bien à quel point aujourd'hui, par exemple, les nouveaux pays de l'Est sont en train de relire la Seconde Guerre mondiale. Notamment, une de ces relectures consiste à affaiblir la toxicité du nazisme pour montrer que celle de l'Union soviétique était finalement aussi grande. Et on est frappé notamment de la mise en équivalence des crimes nazis et communistes, voire même de l'affaiblissement des crimes nazis pour montrer que le grand ennemi, on voit ça dans les pays baltes, c'est évidemment l'Union soviétique. Et donc le fait que certains baltes se soient engagés plus ou moins volontairement dans les armées nazies devient finalement un moindre mal par rapport à ce qui a pu se passer après. Autrement dit, le règlement d'une guerre, est-ce que ça ne conduit pas finalement à revenir sur les règlements et les relectures du passé qui avaient été faites après 1945? Est-ce que dans ce cas-là, on n'a pas finalement plus qu'un règlement du passé à chaque fois, une forme d'emboîtement permanent, de relecture? Et comment est-ce que ça peut se comprendre ou s'analyser à l'échelle de ta conférence?
Oui. Non, mais merci pour l'observation, la remarque que je partage entièrement. Toutefois, j'ai voulu insister sur la période de transition, de sortie de guerre, parce qu'il me semble que justement, ce n'est pas une période neutre, mais c'est la période qui représente en quelque sorte la résolution de la guerre et qui établit les termes de ce qui est possible par la suite. Et donc, tout n'est pas possible. Donc, il faut voir historiquement ce que sont les possibilités des conditions déterminées par cette sortie de guerre. Mais dans la période beaucoup plus longue de réconciliation possible, il me semble, enfin, j'ai dit tout au début que les périodes d'après-guerre sont extrêmement variables. Et pour suivre ton argument, Nicolas, je pense qu'on pourrait raisonner plutôt sur les processus que sur les périodes d'après-guerre. Et effectivement, c'est très clair dans le troisième après-guerre que des aspects de la deuxième guerre, du deuxième après-guerre, figés en quelque sorte, notamment, mais pas seulement, mais notamment dans l'Europe de l'Est, sont complètement remis à la lumière. Et ça, c'est fascinant de voir ce cas-là. Et évidemment, il faudrait avoir une connaissance très particulière de chacun de ces pays pour comprendre cet emboîtement, comme tu dis. Dans le cas, j'ai cité le cas de la Pologne, et là, évidemment, la reconstruction d'une sorte d'épopée légitime, d'une épopée nationale autour de la résistance du Home Army, de la résistance non communiste et le soulèvement de Varsovie, ce n'est que maintenant que ça s'inscrit dans une histoire réécrite de la Deuxième Guerre mondiale. Mais comme tu dis, dans d'autres cas, je pense peut-être au musée analogue à Budapest, cette maison de la terreur qui rend dos à dos les deux régimes, le communisme et le fascisme, et pose la question, sans réellement le résoudre, des comparaisons morales et politiques. Donc ce travail, cet enchevêtrement, oui, absolument, parce qu'il s'agit finalement de processus d'après-guerre qui se superposent, parce qu'il y a aussi des enchevêtrements du premier après-guerre dans la deuxième après-guerre, et notamment le rôle qu'a pu jouer ce type de pacifisme par rapport à la violence guerrière proprement dit, qui a un rôle certain dans la deuxième après-guerre, dans les deux camps, mais tout de même un peu marginalisé, parce que le deuxième après-guerre s'inscrit dans une remobilisation de guerre froide avec la dissuasion nucléaire. Donc, difficile dans ces cas-là de faire une valeur absolue du rejet de la violence militaire. Voilà, je pense effectivement que cette relecture à travers les après-guerres fait surgir justement les rapports entre les trois après-guerres.
Merci beaucoup pour ces précisions. Monsieur ?
Oui, toutes nos félicitations à l'intervenant pour cet difficile effort de synthèse européen. Mais j'ai l'impression que lorsqu'on parle de l'Europe, on a tous en tête cette sorte d'a priori un peu angélique d'une sorte de combat permanent pour la paix. En réalité, est-ce que c'est véritablement ça qui est le véritable déterminant pour la construction de l'Europe. Et on est toujours, quand on parle de l'Europe ou de cette dimension de conflit ou de post-conflit, à penser la paix alors que l'essentiel est d'abord une notion de guerre permanente, la paix ne servant qu'à préparer la guerre suivante. Ce qui serait d'une certaine manière plus implicite à la vie collective, à la vie du monde, c'est la logique du conflit et pas la logique de la paix. D'une certaine manière, on voit que les impératifs de ces guerres successives, ça a été d'abord le pouvoir politique, certes, une sorte d'expansionnisme politique, mais c'est aussi un déterminant, un moteur essentiellement de domination économique. Et qu'on s'aperçoit encore aujourd'hui, d'une certaine manière, on a des difficultés à dire ce genre de choses. Il faut que je viole ma propre conscience pour le dire. Mais on aura presque l'impression, avec la distance, que même ces constructions idéologiques, d'une certaine manière, je dis ça avec beaucoup de prudence, seraient une sorte de prétexte culturel, de prétexte idéologique à faire différemment ou à justifier des politiques de guerre et de prééminence économique. On s'en aperçoit aujourd'hui encore d'une certaine manière, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On crée ailleurs des abcès de fixation. La guerre continue, la guerre économique continue, par une multiplicité d'abcès de fixation, non pas dans l'Europe, certes, quoique la Géorgie est assez intéressante sur ce plan. On continue de multiplier la guerre sous des formes différentes, sous des aspects de fixation, Afghanistan et ailleurs. Donc, la continuité donc de pensée, c'est beaucoup plus peut-être de penser la guerre et l'idéologie comme prétexte de domination économique que de penser ce fantasme magnifique, d'ailleurs, ce fantasme magnifique d'une humanité qui ne tendrait qu'à la paix.
Merci.
Merci pour la remarque. Je ne suis pas certain que je partage entièrement la vue des guerres comme expression d'une volonté de domination économique. Ça peut être effectivement une des motivations, mais je pense que la genèse des guerres est bien plus complexe. Et je dois préciser que je n'ai pas voulu suggérer que les réconciliations européennes sont justement basées sur une sorte de vague pacifisme, ni non plus que l'Europe, qui conduit ces périodes d'après-guerre, ne s'immisque pas dans les guerres non plus. C'était surtout la question des réconciliations possibles ou non entre les anciens combattants antagonistes européens. Et je pense que dans cette mesure-là, ces tentatives, effectivement, du premier après-guerre ont été un échec total. Dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons la création de certaines zones d'apaisement inégales dans les deux parties de l'Europe, mais dans le contexte, justement, comme j'ai dit, d'une remobilisation pour une guerre. Et par exemple, par rapport à l'Europe de l'Ouest, la participation à l'OTAN dans un enjeu de dissuasion nucléaire. Et bien sûr, ce n'empêche pas certains pays européens, la France notamment, de conduire des guerres violentes d'anti-décolonisation pendant la même période. Cela vaut également pour le troisième après-guerre. Les terrains d'entente réels et évidents qui ont été construits dans l'Europe, sur l'Europe continentale, n'empêchent pas la participation de certains pays européens dans des guerres externes. Ça, c'est certain. Mais ce n'était, donc, j'ignore pas et je ne nie pas ces autres dimensions de violence qui continuent. Mais ce qui me frappe, et c'est pour cela que je vous dis que je suis peut-être un brin plus optimiste, et on fait cette leçon qu'avant de l'avoir fait, et il me semble que tout de même, en Europe, que ce qui a été construit est une sorte de confrontation à son propre passé et le fait d'avoir pu aussi en tirer certaines leçons dans les conditions permises par les trois après-guerre, pour enfin construire quand même un certain régime de droit libéral et une zone d'apaisement. C'est peut-être pas beaucoup, mais c'est pas rien non plus.
D'autres questions ?
En Europe de l'Ouest, surtout, on arrive rapidement à une réconciliation après les guerres, mais parfois dans d'autres parties du monde, ce n'est pas le cas. Pourquoi ?
Ah, vous voulez dire après la Deuxième Guerre mondiale ?
Par exemple, l'Allemagne, la France et l'Angleterre, rapidement, on avait trouvé une réconciliation.
Après 45,
oui, oui.
Vous voulez dire, mais que partout, mais ailleurs dans le monde, c'est pas le
oui,
cas.
Oui, parfois on fait la guerre pour des choses qui sont passées il y a des siècles.
Oui, oui. Je dirais que les logiques sont différentes dans les autres zones de la planète et notamment, j'espère que j'ai bien précisé que la guerre froide, parce qu'évidemment c'est une des objections qu'on peut me faire à mes propos, que la guerre froide n'était pas du tout froide dans certaines zones du monde. Mais il me semble que dans la logique de dissuasion nucléaire, il fallait absolument que la guerre froide reste virtuelle dans les zones de confrontation principales. La seule exception, c'est la Corée. Et les zones de confrontation principales, c'est l'Asie de l'Est et l'Europe. Et notamment, la seule exception pour l'Asie de l'Est, c'est la guerre de la Corée. Et justement, on a failli déclencher une guerre nucléaire. Donc, c'est la preuve. Mais ailleurs, dans les marges et en dehors donc de ces zones centrales, la guerre est bien chaude. Et on voit des guerres aussi asymétriques. Par exemple, la guerre américaine au Vietnam, qui n'est pas une guerre totale, loin de là, pour les Américains, mais qui est effectivement une guerre totale pour les Vietnamiens. Donc je pense que la réponse à votre question, à mon avis, serait qu'il y a d'autres logiques ailleurs dans la planète, notamment par rapport à la guerre froide en tant que telle, sans parler des questions de décolonisation et des violences provoquées par la colonisation que je viens d'évoquer. Donc effectivement, vous avez raison que c'est un peu un cas un peu à part, le cas de l'Europe occidentale à partir de 1945.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pensez que c'est trop 100 ans après la Première Guerre mondiale que le débat sur la relecture de l'histoire, les mutineries, etc.,
ouais,
à Verdun, est-ce que vous trouvez que c'est légitime qu'il existe encore un débat alors que c'est bientôt 100 ans après cette guerre ?
Oui, sur la question de la légitimité de débat historique, oui, je dirais que tout débat, d'abord évidemment que tout débat historien est non seulement légitime, mais voulu, parce que c'est ça notre métier. Mais en plus, il y a des questions, même dans un passé lointain, qui pose des problèmes d'ordre moral. Donc j'estime que c'est tout à fait légitime de discuter de cette moralité, toujours avec cette précondition qu'on ne supplante pas les motivations, les compréhensions de l'époque pour nos idées rétroprojectées sur une époque particulière. Voilà, donc, autrement dit, je pense que le devoir essentiel de l'historien, c'est de comprendre et d'expliquer, tout en sachant, tout en se rendant compte que bien de questions dans le passé, même dans un passé lointain, ont bien sûr, pour nous comme pour les contemporains, des dimensions morales.
Est-ce qu'on a le temps peut-être d'une dernière question ? Nous deux ? Oui, madame.
Est-ce que dans l'auditoire de vos étudiants, peut-être dans des pays différents, enfin dans des pays européens, est-ce que vous sentez l'émergence d'une citoyenneté européenne par rapport à leur appartenance nationale?
Ouais. C'est une très bonne question, et notamment parce que j'avais évoqué l'aspect générationnel des réconciliations, l'importance de la deuxième génération, de la génération des années 60-70, à la fois dans le cas français et dans le cas allemand. Je pense que c'est tout à fait important. Pour répondre à votre question, il me semble que ce soit en France ou en Allemagne ou en Irlande, c'est plutôt la facilité avec laquelle on vit avec une multiplicité d'identités. C'est cela qui me frappe chez les étudiants actuellement. Donc c'est certainement le cas, et c'est peut-être plus vrai pour les milieux étudiantins que d'autres, qu'il y a un sens de ce que représente l'Europe, ne serait-ce que par le système d'échange Erasmus. Je sais que dans mon université, au bout de 5 ans, nous avons fêté notre premier bébé Erasmus, issu d'échanges. Donc ça, j'ai parlé de manière concrète de faire l'Europe. Ça en est une. Mais je dirais qu'il y a une facilité de mouvement en Europe. On se crée des amitiés dans de pays différents. Il y a un sens d'appartenir à quelque chose qui est plus de son pays national, mais de sa nation, sans oublier, sans perdre la spécificité nationale. Mais il y aurait mille façons de répondre à cette question, mais dans mon expérience personnelle, c'est plutôt l'impression que j'ai.
Plus de questions ? Peut-être une manière courte, oui ?
Le Royaume-Uni et la Grande-Bretagne qui ont une position très particulière dans l'Europe, effectivement, et cette position de l'Irlande aussi, qui a une situation très particulière par rapport à l'Europe. Qu'est-ce qui, dans l'histoire de ces deux pays, explique cette position particulière de la Grande-Bretagne et de l'Irlande vis-à-vis de l'Europe ?
Oui. Vous avez évoqué ma nationalité irlandaise, mais en fait, en tant qu'anglo-australien, habitant l'Irlande avec une femme irlandaise, mais me spécialisant de l'histoire de la France, c'est plutôt sur ces bases-là que je vous réponds. Non, mais je dirais que ce sont deux logiques, en fait, d'une certaine manière opposées, mais quand même liées. En ce qui concerne la Grande-Bretagne, c'est toujours cette hantise enfin, c'est ce jeu entre le continent et les océans, enfin le monde en dehors de l'Europe. Et c'est très frappant. En 1948, j'avais évoqué donc cette première tentative d'établir une fédération européenne qui donne donc le Conseil de l'Europe, mais qui ne débouche pas, bien sûr, c'est trop tôt, c'est impossible, sur une fédération européenne. Alors, les Britanniques, que ce soit Churchill ou le gouvernement travailliste, ont soutenu à fond ce projet-là, mais qui n'incluait pas la Grande-Bretagne. C'était pour la réorganisation de l'Europe, pour que les Anglais puissent enfin s'en aller pour s'occuper de l'Empire. Et je pense que cette tendance-là reste dans les références britanniques, avec des nuances, bien sûr, parce qu'il y a des courants qui sont plutôt pro-européens, ça c'est évident, mais l'Europe du marché, l'Europe des nations, mais la vision fédérale, pour cette raison-là, qui s'est vue comme un enjeu continental, donc a très peu de prenant en Grande-Bretagne. En revanche, pour les Irlandais, je précise, les Irlandais de la République, l'Europe a une importance extraordinaire parce que dans ce processus de séparation psychologique, parce qu'évidemment, l'indépendance a été gagnée au début des années 1920, justement, une des conséquences de la Première Guerre mondiale, mais psychologiquement, on est resté longtemps dans une certaine mi-révolte, mi-dépendance des Britanniques. Et l'Europe a été justement un formidable terrain d'entente, finalement, avec les Britanniques, à la fois séparation et entente sur d'autres bases. Mais le fond en Irlande, qui est cette défense de l'indépendance arrachée, en quelque sorte, en 1921, des Britanniques, a fait qu'à un certain moment, on avait voulu garder les bases de cette indépendance on avait tendance à voir l'Europe, enfin l'Union européenne, non plus comme un champ favorable, mais comme la source d'une certaine menace à l'indépendance irlandaise. Mais c'est vraiment ça, on dit cette question-là. Les attitudes sont complexes. Les opposants de gauche, les opposants de droite, lors du référendum, ont des bases très différentes pour s'opposer à l'Europe. Et l'avenir n'est pas du tout clair là-dessus.
Merci. Je crois qu'il est temps de clore cette session, qui en fait n'est pas vraiment close par ces discours, puisque comme l'a dit John Horne, nous sommes en pleine après-guerre. Donc on attend la suite de ces analyses, peut-être dans quelques années, au rendez-vous de l'histoire, pourquoi pas. Encore une fois, John Horne, merci beaucoup pour cette très belle leçon d'histoire européenne par un historien véritablement européen, et même aux horizons plus larges, comme vous l'avez rappelé. Merci. Merci.